Chapitre 17e. Vasilissa ne témoigne pas de disposition marquée pour le mariage. Le lundi suivant, comme les jeunes filles rentraient de la promenade, la comtesse les rencontra sur l'escalier. « Nous avons du monde à dîner, Vasilissa. Mettez votre robe de soie bleu pâle et tâchez d'être bien coiffée. »« Et moi, maman ?» dit Zina. « Vous ? Une robe blanche et un velours noir comme toujours. Quand perdrez-vous l'habitude de vouloir être en tout semblable à votre cousine ?» En disant ces mots, la comtesse s'éloignait. Lorsqu'elle fut trop loin pour entendre, « Quand vous voudrez aussi me marier, maman ?» répondit la jeune indisciplinée. Il restait à peine une heure pour se préparer. Les femmes de chambre furent convoquées en hâte, et le joli va-et-vient de mousseline et de ruban qui préside à la toilette des jeunes filles remplit toute la vaste chambre en un moment. Lissa, indifférente, se laissait parer. « Quelle coiffure désirez-vous, mademoiselle ?» demanda la coiffeuse. « Celle que tu voudras. Non, celle que ma tante préfère. » « Oh, mademoiselle, pour un dîner prié, une coiffure si simple !»« Fais-moi celle-là, te dis-je. Ma tante désire que je sois bien coiffée. » À son grand regret, la soubrette commença la coiffure modeste, plate, qui donnait à Vasilissa l'air d'une petite religieuse manquée. « Vos boucles vous vont bien mieux, » disait la bonne fille en s'arrêtant à tout moment. « Nous avons encore une demi-heure. Si vous me permettiez de recommencer. » « Non ?» « Fais des tresses et mets-les en paquets tant que tu pourras. Tire bien, serre bien, tâche qu'il y en ait le moins possible. »« Oh, mademoiselle, vous avez l'air d'une femme de chambre !» s'écria la soubrette scandalisée, en voyant Vasilissa piquer délibérément les épingles dans sa magnifique chevelure dont elle réduisait les nattes de moitié. « C'est bien comme ça. Maintenant donne-moi le nœud bleu. » Elle le planta juste au milieu de sa tête et se regarda dans la glace en souriant. « Oh, Lissa, quel air d'un bonbon !» s'écria Dimitri, faisant une apparition incongrue parmi les jupons. On le chassa à coups de mouchoir, comme une mouche importune, et il disparut. Zénaïde, attirée par l'exclamation de son frère, échappa à sa femme de chambre et, à moitié coiffée, courut à sa cousine. « Horrible !» dit-elle. « Il a raison. Mets le nœud de côté, ou maman sera furieuse. »« Laisse donc !» dit Vasilissa tout bas. « J'ai une coiffure de demoiselle pauvre et modeste. Elle ne dira rien. Et puis ça me va mal. Je suis enchantée. »« Eh bien non, » dit mélancoliquement Zina en la regardant d'un œil investigateur. « Si c'est ça que tu veux, tu n'as pas réussi à être laide. » Écoutant à la fin les doléances de sa femme de chambre, elle retourna à son miroir pendant que Lissa, droite au milieu de la grande pièce, se laissait mettre sa robe de soie bleue décolletée, garnie de moelleuses dentelles, d'où ses épaules charmantes semblaient vouloir se dérober. « Mon Dieu, tu es jolie !» s'écria Zina en se retournant brusquement, ce qui lui mit son velours noir sur l'œil gauche. « Mademoiselle, » fit la soubrette éplorée, « nous ne serons jamais prêtes, si vous remuez toujours. » La comtesse entra. Il était bien rare qu'elle vînt à ce moment solennel de la toilette. Elle jeta un coup d'œil sur sa fille et la gronda de son retard. Puis, s'approchant de Vasilissa, elle mit un peu sur le côté le fameux nœud de ruban bleu, baisa l'orpheline au front et l'emmena, victime parée mais non résignée, pour le sacrifice. Le boudoir était plein de monde. Le chef du bureau de Tchoudesov, que la comtesse connaissait de longue date, deux employés supérieurs au ministère de la Justice, un ou deux parents éloignés, pas riches, enfin tout le personnel des dîners des parents pauvres, mais nobles, comme disait Zina, qui ne manquait pas d'esprit d'investigation. Lissa reçut un coup de plus à son pauvre orgueil, déjà endolori, en voyant ceux qu'on invitait pour tenir compagnie à l'homme qui lui était destiné. D'un geste rapide, elle remit le nœud au milieu de son front. Tchoudesov fit son entrée un moment après, ganté, rasé, parfumé, des odeurs anglaises, irréprochable, ses cheveux noirs séparés au milieu de la tête. À son entrée, un murmure flatteur courut parmi les protégés. On s'assit à table. Tchoudesov auprès de Vasilissa. Les rangs étaient rompus pour ce jour-là. Dimitri était à côté de sa sœur et ne tarissait pas en remarques sarcastiques sur le compte du prétendant. Le menu même du dîner mortifia la pauvre Lissa. C'était un dîner substantiel, de gens qu'on va nourrir pour toute une semaine. De grosses pièces de viande, des rôtis solides, des légumes vulgaires. Pour plat doux, un gâteau feuilleté, Pas de poisson, pas de volaille, pas de mets fins, pas de glace, rien de ce qui rend un dîner délicat, élégant. La comtesse faisait bien ce qu'elle faisait, et ce menu était commandé par elle. Le maître d'hôtel n'eut pas pris soin d'éliminer ainsi toutes les friandises. « Un dîner de parents pauvres !» répétaient les yeux moqueurs de Zina, en allant des invités au plat qui faisait le tour de la table. Vassilissa finit par trouver la chose si drôle qu'une pointe de sarcasme vint se mêler à sa vexation. Tchoudesov ne ralentissait pas ses amabilités et l'orpheline se donna pour la première fois le plaisir d'une coquetterie en règle. Il lui semblait amusant de bafouer cet homme qu'elle devinait lâche et qui se permettait de la courtiser. « Il sera bien vexé lorsque je le refuserai, » se dit-elle triomphante. Et elle causa sans contrainte, montrant tout son esprit, toute sa malice. Le nœud bleu se remit sur le côté comme par miracle, et elle devint si adorablement jolie que Zina en resta éblouie. Après le dîner, ce fut bien autre chose. La comtesse avait fait éclairer les salons. « Dis, Lisa, est-ce pour la cousine Barbe que maman a fait mettre des lampes partout ?» murmura Dimitri en se glissant le long de la robe de la jeune fille. « Non, petit, » répondit sa cousine, « c'est pour Miss Junior, parce qu'elle a un orgelet. » Les yeux brillants, les joues teintées d'un rose vif, elle continua à causer avec Tchoudesov. « Ah, vous voulez m'épouser, » pensait-elle, « parce que j'ai 10 000 roubles et un trousseau. Plus vous croirez près du but, mon beau monsieur, plus fort vous vous casserez le nez quand le moment sera venu. » Sa tante ne la reconnaissait pas. Avec la perspicacité des tantes et des mères mondaines qui ne voient leurs enfants qu'aux heures des repas, elle crut que Vassilissa était ravie de cette fête donnée pour elle et aussi du prétendant qu'on lui proposait. « Ce n'est pas, » pensait la comtesse, « qu'elle puisse en être éprise en si peu de temps, mais l'amour-propre d'une jeune fille qu'on demande en mariage est bien naturel, et puis la passion n'a rien à voir là-dedans. » Sollicitée, Vassilissa se mit au piano avec sa cousine. On demanda des valses et Zina choisit, sans y penser, celle que le prince avait fait jouer chez lui, simplement parce que Lisa les jouait bien. La petite main de Lisa attaqua les notes sans hésitation, mais que de regrets dans le cœur de la jeune fille pendant qu'elle pressait ou ralentissait, au gré de la mélodie, le mouvement rapide et entraînant de la valse aimée. Elle songeait au pauvre Chourov, triste et seul dans la neige au milieu du luxe de sa maison déserte. Elle revit la chambre bleue, la chambre de blonde, qu'elle avait entrevue comme dans un rêve. Princesse, pensa-t-elle, riche à millions, aimée d'un honnête homme délicat jusqu'au scrupule, j'aurais pu être tout cela. Et aujourd'hui je serai la femme de ce plat personnage qui empeste les odeurs et qui en veut à mes 10 000 roubles, jamais. Cette idée lui donna tant d'ardeur qu'elle enleva le reste de la valse comme dans un tourbillon. Zina, malgré toute son habitude et son aplomb, avait quelque peine à la suivre. « Brava, brava !» dit Tchoudesov, applaudissant du bout de ses doigts gantés. « Vous avez un beau talent, mademoiselle. » Lui aussi, pendant cette valse, avait fait un retour sur lui-même. La fête se donnait pour lui. Pour lui, pauvre Gripsou, possesseur de quelques masures et d'une petite maison de briques toute décrépite. Il était invité à dîner chez la comtesse Koumiassine. Il était le prétendant officiel à la main de sa nièce. La noce se ferait dans cette maison luxueuse. La comtesse l'appellerait mon neveu et lui meublerait un gentil petit appartement. Sa femme, élégante, jolie, spirituelle, bonne musicienne, ferait les honneurs de sa maison. « Mes chefs viendront chez moi, » se dit-il, « et grâce à ma femme, mon avancement sera rapide. » Dans le fin fond de sa pensée, il se vit décoré de l'ordre de Sainte-Anne, première classe, chef de bureau, honoré, cossu. « Quand j'en serai là, » pensa-t-il, « je me paierai une petite cocotte. » Une petite cocotte, c'était son idéal. Mais tant qu'il ne serait pas marié, la chose n'était pas possible. Et puis cela compromet les gens qui veulent de l'avancement. Tchoudesov vint encore dîner 2 fois. Mais la réception fut moins brillante. Il vint sans cérémonie et le repas fut bien meilleur que le dîner des parents pauvres. Lisa, plus réservée, parce qu'il y avait moins de monde, ne laissait pas cependant de surprendre sa tante par l'aisance de ses manières. « Ce qu'elle fera une très bonne maîtresse de maison, » se disait la tante en se félicitant de la belle éducation qu'elle lui avait donnée. Un dimanche de février, la comtesse fit prier Madame Gorov de passer chez elle. Elle la reçut fort amicalement, l'embrassa, l'appela ma chère cousine et lui dit sans embâge « J'ai trouvé un mari pour Lisa. C'est un excellent homme, des principes, une jolie position, 5 à 6 000 roubles de revenus. Votre fille aura 600 roubles par an pour sa toilette. C'est l'intérêt du capital que je lui donne en dot et je lui ferai un joli trousseau. De plus, je meuble l'appartement et je paye la première année de loyer. Cela vous convient-il ? » Madame Gorov, prise au dépourvu, ne pouvait que remercier. Elle exprima donc toute sa reconnaissance à la comtesse. Mais comme elle avait du sens, malgré ses défauts un peu vulgaires, elle se hasarda à demander « Le caractère de ce monsieur convient-il à celui de ma fille ? A-t-elle du goût pour lui ?»« Vous comprenez, ma chère cousine, » dit la comtesse avec un sourire légèrement dédaigneux, « que ce n'est pas au caractère de ce monsieur de s'accorder avec celui de votre fille. Une femme doit modeler son caractère sur celui de son mari, et c'est pour cela qu'il n'est pas mal de se marier jeune, pendant que le caractère est malléable. » Le comte Koumiassine était bien loin en ce moment-là, sans quoi, malgré son excellente éducation, il eût peut-être levé les bras au ciel, dans l'excès de son étonnement à l'énoncé de cette maxime. « Soit, » dit Madame Gorov encore indécise, « mais Vassilissa a-t-elle du goût pour lui ?»« Elle le reçoit fort bien, » répondit la comtesse. « Que voulez-vous de plus ? Vous ne voudriez pas, je suppose, qu'elle lui fît la proposition de l'enlever pour se marier un mois plus tôt ?» « Vous me permettrez d'interroger ma fille ?» dit la mère, sentant pour la première fois de sa vie que sa parente l'avait de fait dépossédée de ses droits. « Je vous prierai au contraire de ne pas lui parler de ce que je viens de vous communiquer. Je me suis abstenu de l'influencer, et pour faire les choses en conscience, il faut la laisser libre de son choix. » Madame Gorov respira. Puisque la comtesse elle-même n'avait rien dit, elle n'avait pas à redouter de pression morale. Du moins, elle le croyait. Le soir du même jour, Mademoiselle Bochet fut priée de passer dans le boudoir où se réglaient ainsi les destins de toute la maison. « Chère Mademoiselle Bochet, lui dit la comtesse, j'ai l'intention de marier ma nièce d'ici peu. Votre tâche est achevée. Comme Vassilissa ira beaucoup plus dans le monde que sa cousine, votre présence auprès d'elle n'est plus indispensable. Vous pouvez donc, à partir d'aujourd'hui, vous considérer comme absolument libre de tout engagement. Je crois inutile d'ajouter que tant qu'il vous plaira de rester chez nous, vous serez la bienvenue. « Pourrais-je accompagner Mademoiselle Vassilissa dans ses sorties ?» demanda l'honnête fille. « Non, chère demoiselle Bochet, vous êtes absolument libre. Jusqu'au jour du mariage, Vassilissa sera accompagnée dans ses sorties par Justine Adamovna, qui a beaucoup de temps à elle. « Alors, si votre excellence n'y voit pas d'obstacle, » dit la Suissesse, « je me retirerai après-demain chez une de mes parentes qui habite cette ville. » « Quoi ? Si tôt ? » fit la comtesse, qui aurait bien voulu faire un peu de générosité. « Du moment que je ne suis plus utile à Madame la comtesse, » dit la gouvernante, « je ne dois pas abuser de son hospitalité. »« Comme il vous plaira, mademoiselle, » répondit la comtesse, blessée. Elle prit une enveloppe sur la table. « Voici ce que je vous dois. Il y a 3 mois en surplus. J'aurais dû vous prévenir plus longtemps d'avance. Il est possible que vous ne trouverez pas à vous placer immédiatement. » « Vous voudrez bien ne pas m'offenser par un refus ?» Mademoiselle Bochet s'inclina en silence. Au moment de quitter le boudoir, son pauvre cœur se serra si fort qu'elle fut obligée de s'arrêter. La comtesse se tourna à demi vers elle, croyant qu'elle voulait parler. « Pourrais-je venir de temps en temps voir ces demoiselles et M. Dimitri ?» Ce dernier nom réveilla la mauvaise humeur de la grande dame. « Mais certainement, mademoiselle. Vous avez l'air de croire que je vous renvoie. Vous serez toujours la bienvenue chez nous. » ajouta-t-elle en lui tendant la main, car elle n'était pas méchante. Mademoiselle Bochet serra cette main et sortit la mort dans l'âme. C'était l'exil. Était-ce donc pour cela qu'elle avait tant aimé ses 3 enfants ? Bien que Lisa fût plus spécialement sous sa direction, celle qu'elle préférait était Dimitri, si bon petit garçon, si tendre et si spirituel, cette nature fine, exquise, nerveuse à l'excès, et qui lui paraissait si frêle qu'elle craignait à tout moment de voir rompre le fil qui retenait à la terre cet ange moqueur. Miss Junior était sortie. C'était son jour. Mademoiselle Bochet rentra dans la grande pièce maussade où elle avait passé 2 années de son existence, et ses murs inhospitaliers, ces meubles désobligeants lui parurent un palais à travers les larmes qui remplissaient ses yeux et qu'elle ne voulait pas laisser tomber. En la voyant entrer si pâle, presque défaillante, les deux jeunes filles se précipitèrent au-devant d'elle et la firent asseoir sur un fauteuil. À leurs questions inquiètes, Mademoiselle Bauchet sentit qu'elle allait faiblir et laisser couler ses pleurs. Le visage effrayé de Dimitri, qui la regardait de ses grands yeux noirs, lui fit comprendre la nécessité d'éviter une scène. « Ce n'est rien, » dit-elle, « je me suis tourné le pied en marchant. » Elle refusa tous les soins, toutes les compresses, et tâcha de retrouver un peu de gaieté, mais en vain. Lorsque Dimitri fut parti, elle prétexta une migraine et courut se jeter sur son lit. Les deux cousines appelèrent les femmes de service presque aussitôt, et lorsque tout fut tranquille, en attendant l'arrivée de Miss Junior, qui ne devait rentrer qu'à 11 heures, elles se glissèrent auprès de Mademoiselle Bauchet. « Qu'est-il arrivé ? » dit Zina, tout effrayée à la vue du visage décomposé qui se leva sur l'oreiller à leur approche. « Je m'en vais, mes enfants chéris, je m'en vais demain. On va vous marier, Lisa, vous le savez sans doute, on n'a plus besoin de moi. Je m'en vais. » « Et je vous aime tant !»« Oh, mes filles !» murmura la Suissesse, qui fondit en larmes. Les deux fillettes se mirent à pleurer avec elle. Tout à coup, Zina leva la tête. « Dimitri va tomber malade, » dit-elle. « Il vous aime à la folie !»« C'est pour cela que je n'ai pas voulu en parler devant lui tout à l'heure. Si la comtesse voulait bien ne pas lui annoncer que je m'en vais tout à fait, on lui dirait que je vais faire un voyage et que je reviendrai. Ma mère ne voudra pas de ce petit mensonge. » dit Zina en secouant tristement la tête. Lisa ne pleurait plus. Après le premier échec, elle était devenue calme et restait assise sur le lit, une main de sa gouvernante dans la sienne. « Nous nous faisons peut-être de fausses inquiétudes, » reprit Mademoiselle Bauchet. « Les enfants sont oublieux. Dans 8 jours, Dimitri ne se souviendra sans doute plus de moi. » À cette pensée, ses larmes coulèrent avec plus d'amertume. « Mais vous viendrez nous voir. » L'institutrice, justement froissée, ne voulait pas le promettre. À force d'instance, cependant, elle finit par céder. « Donnez-moi votre adresse, mademoiselle, » dit Vassilissa, qui jusque-là n'avait pas dit grand-chose. « Je veux bien. Pourquoi ? Pour que je puisse vous trouver si j'ai besoin de vous. Besoin de moi, ma chère enfant ? En quoi une pauvre fille comme moi pourrait-elle vous être utile ? On ne sait pas. Faites-moi ce plaisir. De grand cœur, mon enfant, la voici. » « Et vous m'écrirez ?» Un léger bruit dans la pièce voisine annonça le retour de Miss Junior. Les deux cousines se sauvèrent dans leur lit sur la pointe du pied. Pendant que l'Anglaise, étonnée de les trouver endormies de si bonne heure, se déshabillait avec précaution, Zina dit tout bas à sa compagne « C'est bien étrange tout cela. Qu'est-ce que cela signifie ?»«
C'est le commencement, »
répondit Vassilissa. « Le commencement, que veux-tu dire ?»
« Oui, on veut me faire plier, mais je résisterai, quand je devrais rester brisée sur le carreau. »
Zina lui pressa chaleureusement la main. En ce moment, elle avait complètement oublié que l'ennemi était sa mère. D'ailleurs, cette mère, à peine entrevue, qui la grondait souvent, qui ne la caressait jamais, car ce n'étaient pas des caresses que les baisers distraits accordaient le matin et le soir, cette mère représentait l'autorité dans la maison, et l'autorité n'est guère aimée lorsqu'elle ne joint pas un peu de tendresse à sa majesté redoutable. Chapitre 18e. Dimitri donne un soufflet à Mademoiselle Justine. Le lendemain, la comtesse annonça aux jeunes filles que Mademoiselle Bauchet les quittait. Elle ne dit pas le motif de ce départ. C'était ce qu'elle appelait préparer sa nièce à l'idée du mariage. Le travail qui s'offrait tout seul dans la tête de Vassilissa était, à son avis, meilleur que toutes les précautions oratoires et que les discours les mieux préparés. En théorie, elle avait peut-être raison, mais la pratique lui réservait une surprise. À l'heure de la promenade, Miss Junior fut désignée pour emmener les deux demoiselles au jardin d'été. L'Anglaise était loin de triompher, comme le supposait Zina, qui ne l'avait jamais tant détestée. Elle éprouvait au contraire un grand embarras à voir partir son ancienne rivale. Sa nature, un peu aigrie, mais honnête et scrupuleuse, lui faisait envisager toute délation comme un acte monstrueux, et tout en se sentant parfaitement innocente,
Elle craignait que Mademoiselle Bochet ne lui imputât une disgrâce dont elle connaissait bien le véritable auteur. Avant de sortir, Miss Junior, en présence des deux jeunes filles, se dirigea vers Mademoiselle Bochet, fort occupée à ranger sa malle. « J'espère, mademoiselle, lui dit-elle avec hésitation, que vous avez oublié les petites piques qui ont pu avoir lieu entre nous et que vous êtes parfaitement convaincue que je ne suis pour rien dans les circonstances qui vous éloignent de cette maison. » La Suissesse se hâta de répondre et rassura complètement son ancienne rivale, qui pouvait d'un moment à l'autre devenir sa compagne d'infortune. « Il y a ici, Miss Junior, quelqu'un de plus fort que vous et que moi, quelqu'un qui, je le crains, sera bientôt maître de la maison. » Elle se tut. Une poignée de main énergique lui prouva qu'elle avait été comprise. En ce moment, Justine entra pour annoncer que la voiture était attelée. Elle assumait volontiers bien des petits devoirs comme celui-là, de ceux qui lui permettaient d'entrer à l'improviste partout où elle n'était pas attendue. Mais pour cette fois, elle n'apprit pas grand-chose. Le soir, après le dîner, Dimitri vint, comme toujours, passer la soirée avec les jeunes filles. Par une sorte d'entente tacite, personne ne lui avait parlé du départ prochain de sa bonne amie. Il jouait et gambadait comme d'ordinaire, et Mademoiselle Bochet se prêtait à ses jeux avec plus de bonne grâce encore que d'habitude, lorsque Justine Adamovna entra dans la chambre avec son ouvrage. Elle marchait tout doucement comme un chat qui a rentré ses griffes. « Je ne sais pas comment elle s'y prend, » disait Bartel, qui ne l'aimait guère. « Jamais je ne lui ai vu de bottines qui craquent. » L'arrivée de cette sage demoiselle tempéra la gaieté du petit garçon. Personne n'était gai d'ailleurs. Les deux cousines avaient grand-peine à faire bonne contenance. Justine s'assit tout doucement. Les chaises qu'elle prenait ne faisaient pas de bruit sur le parquet. Au bout d'un instant, « Vous êtes tout triste, monsieur Dimitri, » dit-elle. « Mais ce n'est pas pour toujours que mademoiselle Bochet s'en va. Madame votre mère m'a chargé de l'inviter pour dimanche. »«
Bochet s'en va ?»
dit Dimitri, devenu tout pâle. Il sauta à bas de sa chaise et appuya ses deux petits poings fermés sur la table.
« Comment, mesdames, vous aviez caché cet enfant ?»«
J'en suis désolé, je ne pouvais pas prévoir. C'était si simple. Il n'y en a pas de mystère, je suppose. »
Ces phrases se suivirent sans interruption, ponctuées seulement par un haussement de sourcils de plus en plus étonné.
« Bochet s'en va ?»
répéta le petit garçon avec une expression de menace en regardant la protégée.
« Je m'en vais, mon enfant, » dit mademoiselle Bochet en essayant de le prendre dans ses bras. « Mais je reviendrai. Vous voyez bien, je reviendrai dimanche. »«
Pour tout à fait ?» demanda Dimitri, ses poings fermés toujours posés sur la table.
« Non, pas pour tout à fait. Je viendrai dîner. Nous jouerons ensemble. »«
Alors vous vous en allez. Maman vous renvoie. »
La chose était si nette que personne ne trouva de réponse. « Maman vous renvoie parce que vous m'aimez. Elle dit que vous me gâtez. Et c'est parce que vous lui avez fait des rapports, vous ?»
dit-il, les dents serrées en se tournant vers la placide Justine.
« Moi, monsieur Dimitri ?»«
Oui, vous. C'est depuis que vous venez ici le soir que tout va de travers, que maman nous gronde. C'est vous, je vous déteste. »«
Dimitri, Dimitri !»
s'écria mademoiselle Bochet tremblante. Car la comtesse, qui s'habillait pour aller en soirée, pouvait tout entendre de son cabinet de toilette si les portes étaient ouvertes.
« Oui, je la déteste !»
Il chercha un mot nouveau pour lui, et l'ayant trouvé dans sa mémoire, il s'appliqua avec une énergie virile à la protéger de sa mère.
« Je la méprise !» dit-il en se croisant les bras d'un air hautain.
La protégée rougit sous l'affront. Ce petit garçon, que tout le monde essayait vainement de calmer, exprimait visiblement les sentiments de l'assistance.
« Vous n'êtes qu'un enfant, monsieur Dimitri, et vous ne savez pas ce que veut dire le mot que vous avez employé. Sans cela, bien certainement, vous ne vous seriez pas permis. »«
Si, je sais ce que mépriser veut dire, je le sais !» cria l'enfant en frappant du pied.
« Je suis persuadé que non, et c'est pour cela que je vous pardonne. »«
Me pardonner à moi ?» dit l'enfant blême de rage. « Vous, une protégée, pardonnez un comte Koumiassine ?»«
Vous êtes un comte Koumiassine, mais vous êtes aussi un petit garçon très impoli. Cependant, je vous le répète, je ne vous en veux pas, parce que vous ne savez pas ce que mépriser veut dire. »
L'enfant regarda d'un air de défi la protégée dont les mains tremblaient sur son ouvrage. Il fit deux pas en avant et du plat de sa petite main ouverte, il lui appliqua un soufflet sur la joue.
Un cri général s'éleva, et Dimitri fut enlevé dans les bras de sa sœur. La comtesse, qui sortait de son appartement en mettant ses gants, s'approcha du groupe. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. « Toutes les fois que cet enfant vient ici, ce sont des cris à fendre la tête. » « C'est moi qui ai donné un soufflet à Justine !» cria Dimitri, malgré les efforts surhumains de sa cousine qui lui mettait la main sur la bouche. « Un soufflet dans ma maison ?» s'écria la comtesse, véritablement outrée. « C'est impossible. Est-ce vrai, Justine ?»«
C'est vrai, madame la comtesse, » répliqua la protégée humblement. « Mais monsieur le comte n'est pas responsable. À son âge, »
la comtesse sonna vivement. « Emportez mon fils dans sa chambre !» dit-elle au domestique qui parut, et dites à M. Bartel qu'il le fasse coucher immédiatement. Dimitri, demandez pardon à Mademoiselle Justine que vous avez offensée.
Jamais,
dit le petit garçon. Vous êtes ma mère, et je vous demanderai pardon, si vous voulez, d'avoir fait une chose qui vous déplaît, mais je ne demanderai jamais pardon à cette méprisable.
Emportez le jeune comte,
dit la comtesse au domestique.
Ce n'est pas la peine, maman, j'irai tout seul,
répondit l'enfant, en écartant doucement de la main le domestique prêt à obéir. Il s'inclina profondément devant sa mère et un second salut à ses cousines, et pendant que les assistants, pétrifiés de sa conduite, ne pensaient pas à l'en empêcher, il étreignit les jupes de Mademoiselle Bochet dans ses petits bras, embrassa au hasard ceux qui tombaient sous ses lèvres et se retira d'un pas tranquille.
« Enfin, dit la comtesse d'une voix brève, c'est la dernière fois, j'espère. Bonsoir, mesdemoiselles. »
Elle sortit en traînant derrière elle la longue queue de sa robe de velours. 10 minutes après que le roulement de la voiture se fut éteint, Mademoiselle Bochet quittait la maison. Dimitri ne fut pas malade. La commotion nerveuse qu'il avait éprouvée avait été fort amoindrie par l'essor de sa colère. Mais à partir de ce moment, toutes les fois que ses yeux rencontrèrent ceux de Justine Adamovna, ce fut pour lui lancer à la face le même regard qui avait accompagné le soufflet. L'histoire de ce soufflet courut toute la maison, et chose bien singulière, à l'exception de la comtesse, chacun s'en réjouit plus ou moins. Dimitri, mandé par sa mère dès le matin du jour suivant, ne voulut jamais consentir à faire des excuses. Enfin, la comtesse, voyant qu'elle ne vaincrait pas la ténacité de cet enfant, qui lui ressemblait fortement par ce côté de son caractère, se décida à lui donner à choisir entre une très forte punition et le pardon complet sous la condition d'excuse à la protégée.
« Pouvez-vous penser, maman, dit l'intraitable petit garçon, que j'hésite un seul instant? Je serai non pas 2 mois, mais 1 an, si vous voulez, privé de dessert et de friandises, plutôt que de faire ce qui ne serait pas bien.
Comment, ce qui ne serait pas bien? À votre avis, c'est donc mal de témoigner du regret pour une faute commise?
C'est mal de témoigner un regret qu'on n'éprouve pas.
« Vous n'éprouvez pas de regret d'avoir mal fait ?»«
Je n'ai pas mal fait, maman. Je recommencerai tout de suite, si je ne craignais de vous déplaire. »
Le petit garçon fut dépêché avec une verte leçon de morale. La comtesse, quelques jours après, dit en riant à Madame Soutsoff,
« Je ne sais vraiment pas où ce petit garçon va pêcher ses raisonnements. Il a failli me réduire au silence, et il est entêté. »«
C'est bien mon fils, » ajouta-t-elle avec orgueil.
« Il est trop avancé pour son âge, » répondit l'ami. « À votre place, je chercherai à lui épargner les émotions, et je ne le pousserai pas beaucoup dans ses études. »«
Oh, M. Bartel s'entend très bien à l'instruire sans le fatiguer, » répondit la comtesse. « Et puis, Mademoiselle Bochet n'étant plus là, son caractère va redevenir ce qu'il était auparavant. »
Chapitre 19e. Tchoudesov ne triomphe pas sur toute la ligne. La comtesse avait bien autre chose en tête que d'étudier la santé de Dimitri. Il s'agissait de soumettre à Vasilissa elle-même la demande en mariage de son prétendant. Ne doutant pas une seule minute du succès de cette heureuse démarche, elle voulut lui donner une certaine solennité. Après le dîner du mercredi, Vasilissa, qui avait reçu l'ordre de revêtir une robe blanche avant de se mettre à table, fut conviée à passer dans le boudoir de sa tante. Ce n'était pas chose commode pour une fille de 17 ans et demi que d'entrer et de s'asseoir sans embarras au milieu de ce cénacle. Vasilissa, dont le cœur battait si fort qu'il en faisait mal, vint à bout de trouver sa place sans marcher sur les pieds de personne, mais elle n'y voyait pas devant elle. Un très court moment de silence,
qui suivit son entrée, lui permit de se reconnaître, et il s'arma intérieurement pour la lutte. Pendant ce temps, Zina, à genoux dans sa chambre devant les images, priait de toutes ses forces en se mettant ses mains sur les oreilles pour mieux s'absorber. M. Tchoudessov, voyant tous les yeux, excepté ceux de la jeune fille, se tourner vers lui, se lava avec grâce et de sa voix la plus suave s'adressa à Mme Gorov. « Madame, lui dit-il en français, c'était bien plus élégant qu'en russe, avec l'autorisation de Mme la comtesse ici présente, à qui vous avez concédé vos droits sur mademoiselle votre fille, je viens vous demander l'honneur d'entrer dans votre famille, avec la main de mademoiselle Vassilissa Gorov. » Les yeux de Mme Gorov se remplirent de larmes, d'abord parce que c'était un moment très pathétique, et ensuite parce qu'il fallait l'autorisation de la comtesse pour lui demander sa fille, ce qui était vraiment un peu fort. « Monsieur, répondit-elle en portant son mouchoir à ses yeux, le cœur d'une mère ne peut pas mettre d'obstacle au bonheur de son enfant. Si ma fille a du penchant pour vous, je ratifierai son choix de bon cœur. » Son français ne valait pas tout à fait celui de Tchoudessov, mais pour une personne qui en avait perdu l'habitude, ce n'était vraiment pas mal. Tchoudessov salua. La comtesse fut piquée à son tour. Il n'était pas question d'elle dans la réponse. Mais Mme Gorov avait toujours manqué d'usage. « Puisque j'ai déjà eu le bonheur de voir mes intentions accueillies par Mme la comtesse, reprit Tchoudessov en faisant un demi-tour, ponctué par une inclination de tête au fauteuil de la maîtresse du logis, c'est à Mademoiselle Vassilissa elle-même que j'adresserai ma demande directe. « Mademoiselle, continua-t-il d'une voix caressante, je possède environ 5 000 roubles de revenus annuels. Je suis privé des douceurs de la famille, ayant perdu tous ceux qui m'étaient chers. J'ose vous demander de partager ma vie. Je serai heureux de passer le reste de mes jours à mériter votre affection par la preuve constante de celle que m'ont inspiré vos charmes et vos mérites. » « Répondez, Vassilissa, fit la comtesse qui avait trouvé la phrase trop longue. Vassilissa se leva. La pâleur de son visage ne se détachait presque pas de la blancheur de sa robe. Elle leva ses yeux bleus sur la comtesse, puis sur Tchoudessov et s'adressant à celui-ci. « Je vous remercie, monsieur, de l'honneur que vous voulez me faire. » Elle s'arrêta. « Eh bien, dit la comtesse d'un air encourageant. Vassilissa reprit longuement haleine. « Mais je refuse, dit-elle d'une voix nette. Et elle s'assit. Tchoudessov, extrêmement vexé, était resté seul debout au milieu du salon. Il regarda autour de lui et prit le parti de s'asseoir. « Je crois, ma nièce, dit la comtesse avec hauteur, que vous n'avez pas compris ce que monsieur vous a dit. Mon consentement lui est acquis. Je désire ce mariage. Votre mère se range à mon avis. L'union est fort convenable, au-dessus même de ce que vous pouvez espérer. Voulez-vous répondre une seconde fois ?»« Je refuse, ma tante, dit Vassilissa sans se lever. « Pourquoi ? Dit la comtesse qui rougit brusquement. « Parce que vous m'avez dit, quand nous revenions de la campagne, qu'il fallait aimer et respecter son mari. Je n'aime pas, monsieur. » La vieille parente ouvrit les yeux très grands. Ceci était un dénouement bien imprévu pour une demande à mariage si officiellement annoncée. Qui eût pu prévoir chose semblable ? « Quand j'ai parlé d'aimer, répliqua la comtesse, je n'ai pas fait allusion aux passions qu'on trouve dans les romans. » Et Tchoudessov lança à Vassilissa un regard langoureux, chargé de lui apprendre que lui, au moins, brûlait pour elle des flammes qu'on voit dans les romans, toujours coupables de tout le mal. « J'ai voulu, continua la comtesse, parler de l'affection honnête et sincère que l'on éprouve pour un homme de bien, une sorte d'amitié qui fait que l'on serait bien aise de passer sa vie avec un compagnon sûr et agréable. Je n'éprouve rien de semblable pour monsieur. » La comtesse n'avait jamais vu personne lui résister, sauf peut-être Dimitri, son enfant gâté. Il ne pouvait pas lui entrer dans l'esprit que le refus de Vassilissa fut autre chose qu'une boutade sans conséquence. Elle essaya de tourner la chose en plaisanterie. « Cela viendra, » dit-elle avec un sourire engageant. « Vous avez voulu cueillir le fruit avant qu'il fût mûr, » continua-t-elle en s'adressant à Tchoudessov. « Force vous sera d'attendre que cette fillette voie un peu plus clair dans son cœur. En attendant, je vous autorise à vous regarder comme son prétendu. À mesure qu'elle vous connaîtra mieux, elle s'attachera à vous comme vous le méritez. » « Est-il vrai, mademoiselle ? » dit Tchoudessov avec âme. « Puis-je espérer qu'un jour... »« Non, monsieur, » dit Vassilissa d'une voix claire, « je ne vous aime pas, et de mon plein gré, je ne serai jamais votre femme. J'ai donc eu le malheur de vous déplaire ?» Vasilissa fit un signe de tête affirmatif. Un autre, plus heureux, peut-être ? Vasilissa rougit à cette supposition nouvelle, mais elle répondit sans embarras. « Non, monsieur, ni vous, ni un autre. »« Mais alors, pourquoi cette assurance que jamais vous ne consentirez ?»« Parce que je devrais jurer devant Dieu d'aimer toute ma vie et de n'aimer que mon mari. »« Eh bien, je ne puis pas jurer de vous aimer, ni d'aimer que vous. Si une fois marié, j'allais rencontrer celui que j'aimerais. » Tout le sang de la jeune fille lui monta aux joues comme elle prononçait ces dernières paroles, et elle se leva. Droite, les yeux baissés, rose comme un matin de mai, elle semblait l'image de la pudeur. Tchoudessov éprouva un moment de véritable passion, si ce nom peut s'appliquer à ce qu'il ressentit. « Ah ! » s'écria-t-il avec feu. « À force d'amour, je finirai par vous convaincre. »« Laissez donc, monsieur Tchoudessov, » dit la comtesse en se levant à son tour. « C'est un caprice de petite fille qu'il faut punir et non flatter. Je vous autorise à vous considérer dorénavant comme le fiancé de ma nièce. Je lui parlerai raison. » Tout le monde s'est élevé. « Ma cousine ?» hasarda timidement Madame Goroff. « Si monsieur ne plaît pas à Lisa, peut-être vaudrait-il mieux. »« J'ai eu jusqu'ici toutes les peines de l'éducation de ma nièce, » répondit la comtesse avec hauteur. « Vous trouverez bon que je continue à m'occuper de son bonheur ? Je connais son caractère mieux que vous, » ajouta-t-elle d'un ton radouci. Vasilissa rentra chez elle. Zina courut à sa rencontre. Miss Junior elle-même attendait, la tête levée. « Eh bien, » murmura Zina, toute palpitante, « j'ai refusé, » dit Lisa, tombant épuisée sur une chaise. Miss Junior lui fit respirer son flacon de sel, et la sensation désagréable que procure cette sorte de réconfortant ranima bientôt la pauvre jeune fille. « Et ma mère, qu'a-t-elle dit ? » fit Zina. « Elle n'a pas dit grand-chose, ce sera pour demain. » « Et elle l'a congédié ? » ?»« Non pas, il est autorisé à me faire sa cour. » Miss Junior leva les bras et les yeux au ciel. Mademoiselle Justine, qu'on n'avait vue ni entendue jusque-là, se glissa dans la salle d'études. « Votre maman désire vous dire bonsoir, » dit-elle à Vasilissa. Madame Goroff la suivait de près. Elle serra sa fille dans ses bras, la bénit, et l'embrassa en lui glissant un petit mot à l'oreille. Elle sortit sur le champ, et Justine l'accompagna jusqu'à l'antichambre. La soirée s'acheva sans autre incident. Les jeunes filles se couchèrent en silence, contre leur coutume. Miss Junior témoigna à Vasilissa plus d'amitié qu'elle ne l'avait encore fait, mais sans une allusion au sujet qui intéressait tout le monde. Zina, déjà couchée, sauta bas de son lit pour venir embrasser la cousine. Les deux jeunes filles restèrent un moment étroitement serrées, puis se séparèrent sans mot dire, et le sommeil détendit bientôt leurs nerfs fatigués. Chapitre 20e. Un bal de fiançailles. Le lendemain, Vasilissa était à peine habillée, lorsqu'elle reçut l'ordre de comparoir devant sa tante. Elle s'approcha, comme d'habitude, pour baiser sa main, mais la comtesse, sans se laisser toucher par elle, lui fit signe de s'asseoir. « Votre conduite d'hier n'a pas de nom, mademoiselle, » lui dit sa bienfaitrice, avec le calme de l'indignation concentrée. « Vous m'avez induite en erreur en acceptant les hommages de M. Tchoudessov, et au moment où, par vos coquetteries, vous l'avez amené à vous demander votre main, vous faites l'esclandre d'un refus public. Vous devriez rougir de votre conduite. » Vasilissa rougissait en effet de toutes ses forces. Mais la comtesse, qui avait coutume de parler sans regarder ce qu'elle grondait, ne s'en aperçut pas. L'accusation de coquetterie était un peu méritée, et la jeune fille sentait bien que là était le point faible de sa défense. Cependant, comme l'audace grandit en proportion du péril quand on lutte pour sa vie, elle se promit de ne céder sur aucun point et attendit la reprise des hostilités. « Pourquoi avez-vous refusé cet honnête homme ? Quelle faiblesse de s'être attaché à vous ? Répondez !» dit la comtesse en levant les yeux cette fois. « Je n'ai pas d'autre raison, ma tante, que celle que je vous ai donnée hier. Je ne l'aime pas. Et c'est après 6 semaines de coquetteries indignes que vous vous en apercevez ? Ma tante, je ne savais pas que j'étais coquette, » fit la jeune rusée en baissant les yeux. « J'ai essayé de l'aimer, voilà tout, et je n'ai pas pu. »« Comment ? Vous avez essayé de l'aimer à présent ?» La comtesse était désorientée et ne savait plus très bien distinguer ce qu'il eût fallu défendre de ce qu'elle avait dû permettre. « Oui, ma tante, vous m'avez dit en venant à Pétersbourg qu'il fallait aimer son mari. J'ai bien vu que vous me destiniez, monsieur Tchoudessov.
À quoi avez-vous vu cela, mademoiselle ?
À ce que vous avez été très aimable avec lui, ma tante. Un homme que vous ne connaissiez pas auparavant. Et puis, dès le premier jour, vous l'avez amené dans notre salle d'études.
La comtesse, dépitée, chercha une échappatoire et n'en trouva point.
Eh bien, mademoiselle, puisque vous êtes si savante et que vous avez déjà tâché de l'aimer, tâchez encore.
Je ne puis pas, ma tante.
C'est ce que nous verrons. Je veux ce mariage. Entendez-vous ? Je le veux.
Vassilissa baissa la tête et ne répondit pas.
« Je le veux !»
cria la comtesse qui s'oublia complètement devant cet air de résistance.
Sa nièce ne disait mot. Elle la prit par le bras et la secouant rudement.
« Je le veux » dit-elle.
« M'avez-vous comprise ?»«
Oui, madame. »«
Vous obéirez ?»«
Non, ma tante, »
dit courageusement l'orpheline en regardant la comtesse en face. La comtesse eut un moment l'idée de broyer sur le parquet, sous ses bottines, la frêle enfant qui lui résistait ainsi. C'était la première fois de sa vie qu'elle avait affaire à la résistance ouverte, avouée, sans concession. Elle se retint à grand-peine.
« Vous obéirez pourtant, » dit-elle.
« À dater d'aujourd'hui, vous quittez la chambre que vous avez partagée avec ma fille. Vous pervertiriez aussi cet enfant par vos exemples de rébellion. Vous habiterez la chambre de Justine Adamovna. »
Les yeux de l'orpheline, qui s'étaient remplis de larmes à l'idée de quitter Zina, se sécha brusquement à cette mention de la protéger.
« Vous m'entendez ?»«
Oui, ma tante. »«
Vous allez y monter immédiatement. On y portera vos effets. »«
Toutes les après-midi, à 4 heures, vous descendrez ici, et M. Tchoudessov viendra vous faire sa cour avant le dîner. »«
Ce soir, j'annonce vos fiançailles à la société qui se réunit chez nous, c'était un jeudi, et vous ouvrirez le bal avec votre fiancé, que j'invite pour la première fois à mes soirées. »« On va commencer immédiatement votre trousseau, et vous vous marierez le dimanche de Quasimodo. Vous m'entendez ?»«
Je vous entends, ma tante, mais je ne me marierai pas. »«
Il y a loin d'ici là, » dit la comtesse avec un rire sarcastique. « Vous avez le temps de changer d'avis. »
Vassilissa garda le silence. Ceci était plus fort que tout ce qu'elle avait prévu.
« Votre fiancé vous apportera ce soir son cadeau de fiançailles. Vous le porterez pour entrer au bal. On vous félicitera. Vous répondrez comme il convient. » Si vous faites un esclandre, si vous me contredisez sur un seul point, je vous fais enfermer au couvent, et vous n'en sortirez pas. Les filles telles que vous sont rares, Dieu merci, mais on en vient à bout, cependant. Allez. »
Vassilissa se retira navrée. La séparation d'avec Zina était ce qui lui coûtait le plus. Le couvent était loin. Et puis c'était un peu comme le diable dont on parle toujours et qu'on ne voit jamais. Mais l'absence de Zina et la présence de Justine à la fois, c'était trop. Elle monta à la chambre de la protégée, où l'on avait déjà porté son lit et quelques effets. Justine, fort aimable, la reçut avec mille tendresses.
« Je ne vous aurai pas longtemps pour compagne, lui dit-elle avec grâce. La comtesse a fait venir son tapissier ce matin, et l'on vous a commandé une jolie chambre bleue pour votre appartement de nouvelle mariée. Le salon sera rouge. L'appartement est loué au coin de la Galernaya. »
Vassilissa ne l'écoutait plus. Une chambre bleue?
Et le prince qui lui en avait fait préparer une si belle qu'elle faisait pâlir les contes de fées.
Justine s'aperçut du peu de succès de son éloquence et la laissa à ses méditations. La journée s'écoula. Le déjeuner de Luisa lui fut servi en haut. Elle ne sortit point au moment de la promenade. À peine entendit-elle, à 2 heures, le bruit de la voiture qui emmenait Miss Junior et son élève. Avant le dîner, sa femme de chambre vint la coiffer et lui apprit que Zina avait beaucoup pleuré, que pour cette raison elle n'avait pas travaillé, et qu'elle était allée chez un bijoutier choisir une parure que sa mère voulait lui faire offrir à la fiancée.
« On va vous donner beaucoup de belles choses, mademoiselle, » disait la femme de chambre.
Quand elle eut mis la dernière main à la coiffure et posé le bouquet de jasmin blanc que la comtesse avait envoyé exprès,
« Vous dînerez avec votre robe de ville, mademoiselle, » lui dit cette fille peu intelligente mais dévouée. « Après le dîner, nous remonterons et on vous mettra une belle robe neuve. » qu'on vous a porté tantôt. Ainsi, tout était préparé de longue main pour cette fête de fiançailles, tout, excepté la fiancée, qu'on avait négligé de consulter.
Vassilissa parut au dîner avec sa robe de laine.
« Ma cousine Lisa, lui dit Dimitri en s'approchant d'elle au moment où se levait, tu es donc en pénitence ?»
Elle regarda d'un œil furibond Justine qui s'approchait et qui, fidèle garde du corps, emmena Lisa en haut sans lui avoir permis d'échanger un mot avec sa cousine. Quand la jeune fille fut parée,
la comtesse la fit appeler dans son boudoir. Il pouvait être 9 heures. Les soirées de la maison Koumiassine ne devant jamais dépasser 1 heure du matin, on y venait plus tôt qu'on ne se rend d'ordinaire à ces sortes de réunions. On arrivait déjà, et les instruments de musique s'accordaient de la façon discordante qui, paraît-il, ne peut s'éviter. Zina, descendue avec sa gouvernante depuis quelque temps déjà, recevait les arrivants. Tchoudessov, toujours irréprochable, était avec la comtesse. Des écrins ouverts sur la table jetaient leur feu sous la lumière de la lampe. Jamais, aux yeux de sa fiancée, Tchoudessov n'avait paru aussi laid qu'à la lueur de ses diamants. « Approchez, ma nièce. Voici M. Tchoudessov qui vous offre le cadeau des fiançailles. J'espère que vos ridicules enfantillages sont finis et que vous allez montrer ce que vous êtes au fond, une bonne enfant, affectueuse et reconnaissante. » Vasilissa s'inclina sans répondre. Tchoudessov fit un pas vers elle, tenant à la main un écrin qui contenait un large bracelet d'or orné d'un fermoir de rubis entouré de brillants. Il offrit l'écrin à la jeune fille, qui resta immobile comme si elle n'avait pas entendu. La comtesse prit le bracelet dans l'écrin, ouvrit le fermoir, saisit brusquement le bras de sa nièce et passa le bijou au poignet de Vasilissa. Le fermoir produisit un bruit sec. « On me rive ma chaîne, » pensa la fiancée, « mais je saurai la briser, même si je ne peux réussir que par la mort. » La comtesse tendit alors à Tchoudessov le bras inerte qu'elle n'avait pas quitté. « Baisez la main de votre fiancé, monsieur, » dit-elle. Tchoudessov, empressé, radieux, s'avança et prit la main qu'on lui offrait. Au moment de la porter à ses lèvres, il leva les yeux sur le visage de Lissa. Elle le regardait calmement. Ses beaux yeux bleus n'exprimaient ni colère ni dédain. Il semblait dire « Voyons jusqu'où vous oserez aller. » Le fiancé, inquiet de ce regard énigmatique, était prêt à laisser retomber la main froide et morte qu'il tenait, lorsque la comtesse lui dit avec impatience « Eh bien, est-ce que vous hésitez ?» L'employé du Sénat baisa respectueusement, du bout des lèvres, les doigts de Vasilissa et lâcha la main qui retomba, froissant le dessous de soie de la robe de bal. « C'est bien, » dit la comtesse. « Voici, mon enfant, le cadeau que je vous offre, avec mes vœux pour votre bonheur. » C'était un médaillon assorti au bracelet, tout en attachant au cou de sa nièce, toujours immobile et muette, le collier d'or qui soutenait ce médaillon, la tante ajouta « Vous reconnaîtrez bientôt, j'espère, que tout le monde ici vous aime et n'a en vue que votre bien. » Là-dessus, la comtesse, sincèrement convaincue de la vérité de son assertion, baisa le front glacé de Vasilissa. « Encore une chaîne, » pensa celle-ci, qui sentait à son cou le froid du collier. « Mais 2 ou 10 ou plus, peu importe, l'âme a des ailes. » Sa tante la regarda. Elle attendait un remerciement. Ce silence prolongé la troublait, malgré son assurance. Elle sonna et fit appeler sa fille. Pendant qu'on allait la chercher, elle planta dans les cheveux de Vasilissa une étoile de diamant, présent du comte. Un dernier écrin attendait sur la table. Zina accourut, si légère et si rapide qu'on ne l'entendit pas venir. Toute blanche, dans son nuage de tulle, elle sauta au cou de sa cousine. Les deux jeunes filles restèrent embrassées 1 seconde sous les yeux de la comtesse, qui, fort mécontente de cette effusion, ne savait cependant comment l'empêcher. « Offrez à votre cousine le souvenir que vous avez préparé à son intention. » Zina prit les boutons d'oreille dans la petite boîte, mais ses mains tremblaient si fort qu'elle ne put les attacher. Ce fut Vasilissa qui passa les bijoux à ses petites oreilles roses. Sa main, à elle, ne tremblait pas. Sur un regard de sa mère, Zina commença. « Accepte ce souvenir, chère cousine, comme gage de mon amitié et de mes souhaits de bonheur. » Sa voix s'étrangla, et elle saisit Lissa dans une étreinte désespérée. Les garnitures de leurs 2 robes froissées s'étaient enchevêtrées dans cet embrassement, pendant qu'elle se dégageait. « Ne me dis rien, » murmura Vasilissa, « ne me fais pas pleurer, cela leur ferait plaisir. » Zina resta près d'elle, plus pâle certainement et plus tremblante que la victime. « Monsieur Tchoudessov, » dit la comtesse, « offrez le bras à votre fiancé. Nous descendons. » L'orchestre jouait en bas les valses mélodieuses à la mode dans ce temps-là. Les sons arrivaient distinctement au premier. Tchoudessov s'engagea dans l'escalier. Les doigts gantés de blanc de Lissa reposaient sur sa manche. Au tournant de la rampe, pendant que Zina et sa mère se tenaient forcément un peu en arrière, écartées par la traîne de sa robe, Lissa,
adressant pour la première fois la parole à son fiancé. « Monsieur, je ne vous aime pas, je ne vous aimerai jamais. Si vous êtes un honnête homme, renoncez à des projets qui feraient le malheur de nos deux existences. » Elle le regardait bien en face. Ses yeux bleus, agrandis par la torture qu'elle subissait intérieurement, cherchaient au fond de l'âme de cet homme l'étincelle divine qui devrait se trouver en chacun de nous. Tchoudessov, de sa main droite, prit doucement les doigts gantés et voulut les porter à ses lèvres. Il souriait d'un air fat, comme pour dire « Ce ne sera rien. Allez, on s'y fait. » Vassilissa retira sa main avec un tel air de menace que Tchoudessov se crut souffleté. Depuis la volée de coups de canne qu'avait rompu son premier roman, il n'avait pas éprouvé de frayeur aussi vive. Ils étaient arrivés au bas de l'escalier. La comtesse les rejoignit, passa devant eux avec sa fille, et les quatre personnages entrèrent dans la salle de bal. La musique s'interrompit. « Monsieur Nicolas Tchoudessov, » dit la comtesse au premier groupe qui l'entoura, « fiancé d'hier à ma nièce Vassilissa. » Tchoudessov fut en un clin d'œil toisé et jugé. Les compliments n'en plurent pas moins de tous côtés sur la fiancée, qui saluait silencieusement. Les jeunes filles embrassaient ses joues amaigries, les dames la baisaient au front, les jeunes gens lui faisaient une inclination profonde, elle acceptait tout, répondait à tout par le même geste machinal. L'orchestre entama une valse, et Tchoudessov, enlaçant sa fiancée, s'envola avec grâce. Après le premier tour, il s'apprêtait à continuer, Vassilissa s'arrêta court. « Je suis fatiguée, monsieur, » lui dit-elle, « je vous remercie. » Elle s'assit. Zina, qui la suivait des yeux, vint auprès d'elle, et un groupe de jeunes filles la sépara bientôt de l'odieux fiancé. « Tu vas te marier? Est-ce que ça te fait plaisir? Tu l'aimes, ce monsieur? Il n'est pas beau. C'est un civil. Pourquoi n'épouses-tu pas un officier? Ce serait bien plus gentil. Est-ce que tu te marieras bientôt? Ce sont tes cadeaux de noces. » Ces questions et cent autres s'échappèrent à la fois de vingt bouches rieuses. Puis un silence relatif se fit, car Vassilissa ne parlait pas, ne souriait pas, et ce n'était pas l'usage des fiancés. « Je le déteste, » dit-elle. « Oh !» dirent toutes les jeunes filles. « Et pourquoi l'épouses-tu ? » Vassilissa n'osa répondre. De l'autre côté du salon, sa tante regardait d'un air sérieux. Elle se contenta de secouer négativement la tête, puis regarda ses compagnes d'un air où le triomphe se mêlait à la colère. « Tu ne l'épouseras pas ?» lui dit l'une d'elles. « Comment feras-tu ? » « Je n'en sais rien, » répondit Vassilissa. « Mais si je l'épouse, cela m'étonnera bien. En attendant, puisque c'est un bal de fiançailles, mademoiselle, amusons-nous. » D'un geste, elle rompit le cercle et parut au milieu des danseurs. Maritsky se trouvait devant elle. « Je vous félicite, mademoiselle, » lui dit-il avec une nuance de dédain. « Vous trouvez mon choix étrange ?» répondit-elle en souriant. Depuis qu'elle avait proclamé sa haine pour Tchoudessov, elle se sentait vingt fois plus forte. « J'avoue, en effet, » répliqua le jeune officier abasourdi. « Ce n'est pas mon choix, monsieur, » dit-elle, « et s'il plaît à Dieu, cet homme, » elle appuya sur le mot, « ne sera jamais mon mari. » « Alors pourquoi ? Ma tante est plus sage que moi. » Vassilissa releva ses yeux baissés. Une expression de malice enfantine éclaira son visage. L'orchestre jouait toujours sa valse. Maritsky s'inclina devant elle. Elle mit sa main sur l'épaule du jeune officier et fit trois fois avec lui le tour de la salle. On ne sait quel mot d'ordre avait circulé parmi toute cette jeunesse. Mais Tchoudessov eut beau faire, jusqu'au prochain quadrille, il ne put venir à bout de percer le groupe qui se reformait sans cesse autour de sa fiancée. Sa position à lui était fort embarrassante. Il n'avait pas d'amis, personne ne le connaissait. La comtesse avait beau le présenter, après deux ou trois phrases de politesse inspirées par la curiosité, on n'avait plus rien à lui dire. En revanche, on le regardait beaucoup. Vassilissa, au milieu des compagnes de son enfance, entourée et courtisée par les jeunes gens qu'elle connaissait, quelques-uns depuis le berceau, d'autres depuis quelques semaines au moins, Vassilissa se sentait à son aise. Elle voyait que son fiancé déplaisait à tout le monde, et elle était ravie. Elle prenait un plaisir sans borne à le voir tourner, inquiet et ennuyé, autour de son petit royaume. Lorsque les hasards de la valse la faisaient passer auprès de lui, elle sentait avec une satisfaction maligne
les rubans de satin de sa ceinture claquaient comme un coup de fouet sur le drap noir de son habit. Elle réussit pendant une heure à le tenir éloigné d'elle, et au bout de cette heure-là, tout le monde dans la maison, jusqu'aux domestiques qui gardaient les fourrures dans l'antichambre, savait que la comtesse mariait Mademoiselle Gorof contre son gré. Mais, hélas, toute joie doit finir. Il fallait bien danser un quadrille avec le fiancé. Zina s'arrangea pour leur faire vis-à-vis avec Maritsky, afin de pouvoir au moins serrer la main de sa cousine quand les règles de la contredanse les feraient se rencontrer. Pendant ce quadrille, Lisa ne répondit que oui et non à Tchoudessov. L'autre couple, au contraire, causait avec beaucoup d'animation. Zina était très prudente. L'espèce particulière de réserve que le grand monde inspire à ses nourrissons dès le berceau permet de dire beaucoup de choses sans se compromettre. La jeune comtesse ne prononça pas le nom de sa mère, ne dit que du bien de Tchoudessov, ne souffla mot de Justine Adamovna, ni de la manière dont ce mariage avait été conclu. Et au bout de 25 minutes, quand le quadrille cessa, Maritsky, plein de compassion pour la victime, regardait la comtesse Koumiassine comme une tante qui avait fort envie de marier sa nièce et qui avait pris le premier venu. Le premier venu! Lui aussi, Maritsky, aurait pu être le premier venu s'il s'était présenté, et on lui redonnait cette jolie personne. Oui, et c'eût été beaucoup mieux, à tous les points de vue, mais il était trop tard. Même en admettant qu'elle n'épousa pas Tchoudessov, à présent on ne la lui donnerait pas. La comtesse serait très mécontente, et ses parents, lui, ne voudraient pas d'une belle fille qui aurait eu un premier mariage scandaleusement rompu après des fiançailles officielles. Et le jeune homme, qui n'avait jamais pensé à épouser Mademoiselle Gorof, se prit à regretter de n'avoir pas eu cette idée plus tôt. Dans le courant de la soirée, il invita plusieurs fois Zina pour parler de sa cousine, et celle-ci, qui trouvait Maritsky très gentil, ne demandant pas mieux que de causer, ils devinrent les meilleurs amis du monde. Le bal fini, la foule s'écoula peu à peu. À 1h30, la comtesse et les deux jeunes filles se trouvèrent seules avec Tchoudessov dans la salle à manger où l'on avait soupé. Le fiancé prit congé de la comtesse en la remerciant de toutes les grâces dont elle le comblait. La grande dame sourit avec bienveillance. « J'espère, Vassilissa, dit-elle à sa nièce, que vous avez achevé de vous ranger à des sentiments plus raisonnables. « Je n'ai pas changé, ma tante, répondit la jeune fille. Vous m'avez défendu de faire un esclandre. Je n'ai pas voulu vous désobéir dans votre maison. Mais si on me mène à l'église quand le prêtre m'interrogera, je répondrai non. » Au mouvement héroïque de sa tête blonde, les brillants dont elle était couverte jetèrent leur feu sur Tchoudessov, ébloui et vexé. La comtesse se tut pendant un instant. « Vous aurez le temps de réfléchir d'ici là. Nous n'en continuerons pas moins les préparatifs du mariage, monsieur Tchoudessov, » dit-elle au fiancé. Et par esprit de compensation sans doute, elle lui donna sa main à baiser. Vassilissa avait mis ses deux mains derrière son dos, mais Tchoudessov, qui se rappelait encore le regard qu'il avait reçu dans l'escalier, ne réclama point cette faveur, qui lui était pourtant légitimement due, et s'en alla, la tête levée, mais au fond très penaud.